corps de métaphysique, la personne humaine, par le père Marie-Dominique Philippe, le 24 février 1999 à Saint-Jodard.
J'ai commencé la dernière fois à voir cette troisième dimension de la personne humaine. Après avoir précisé comment comprendre l'autonomie substantielle de la personne, son enracinement dans l'âme spirituelle, substantielle, après avoir précisé la structure propre de la personne humaine, la recherche de la vérité. Que l'homme trouve, c'est dans le cœur de l'ami. sens-là, c'est le premier moment profond de la découverte de ce pourquoi, en effet, la finalité, ce pourquoi, en effet, c'est très étonnant de voir que c'est dans ce repos affectif, vital, spirituel, que on découvre ce qui permet un épanouissement. On ne peut se reposer que là où on s'épanouit. Parce que si on est dans la crainte, il y a un repliement sur soi. Et le repliement sur soi est juste l'inverse de l'épanouissement. Par le point de vue de l'amour, d'amitié, il y a cet épanouissement dans ce repos, dans cette connaturalité. L'amour nous connaturalise à celui que nous aimons. Et en même temps, il y a un dépassement. C'est peut-être cela qui fait justement découvrir le point de vue de la finalité. S'il n'y avait que la connaturalité, il n'y aurait pas de véritable repos, il n'y aurait pas de véritable finalité. La fin réclame un dépassement. Donc il faut trouver dans le cœur de l'ami ce dépassement.
Prolongement de moi.
l'accaparement. Ça, c'est le propre de la passion. C'est-à-dire d'un amour sensible, passionnel, qui ne me fait pas vraiment sortir de moi. Je colle à l'autre pour être comme la sangsue et pour tirer de l'autre qui n'est pas vraiment l'autre, qui est mon bien sensible dont je jouis. Dont je jouis tant que j'ai quelque chose à tirer de lui et dont je ne jouis plus il est réduit à être complètement épuisé. La passion épuise. Forcément, elle gonfle et elle épuise. Celui qui domine se gonfle. Celui qui est dominé est épuisé. C'est juste l'inverse de la découverte de l'autre. Puisque la découverte de l'autre implique qu'on accepte d'être dépassé. On accepte d'être dépassé et de découvrir dans l'autre quelque chose que je n'ai pas. De découvrir dans l'autre quelque chose qui suscite mon admiration. Je suis en état d'admiration quand je découvre l'autre. Mon ami, c'est l'autre. Et c'est ce que Lévinas, pendant toute sa vie, a cherché. Sa méthode philosophique, phénoménologique, il ne pouvait pas. Puisque on prend ce qui est le vécu. Or, l'autre n'est jamais le vécu. Parce que s'il était mon vécu, il ne serait plus l'autre. Il serait relatif à moi. Il serait assimilé par moi, par une connaissance, et il serait capté par moi au niveau affectif. Je le ramènerai à moi, et je n'accepterai de l'autre que ce qui m'est relatif. C'est pour ça que la méthode phénoménologique empêche de saisir la transcendance. Empêche de saisir l'autre. Voyez, au plan philosophique, il y a le premier moment où je saisis l'autre dans le jugement d'existence. Ceci est l'être, au point de vue de ma connaissance intellectuelle, l'être est tout de suite ce qui n'est pas moi. Quand je dis ceci est, je me heurte intellectuellement à quelque chose qui me dépasse. Je n'assimile jamais l'autre. Je le respecte. Alors, avec la méthode phénoménologique, où l'on étudie ce qui est assimilé, ce qui est connu, ce qui est aimé, je ne peux pas saisir l'autre. Et c'est ça qui était la souffrance, on peut dire la souffrance, de quelqu'un comme Lévinas. Parce que Lévinas était profondément croyant, était juif croyant, avec un très grand sens de la transcendance de Dieu. Dieu était l'autre, totalement l'autre. philosophie réaliste. Le premier moment de ma philosophie, c'est le jugement d'existence. C'est pas mon cogito. C'est pas je pense. Quand je pense, je ne saisis pas l'autre. Je peux très bien, dans je pense, m'enfermer en moi. L'autre, c'est ce que j'ai connu de lui. Or, précisément, l'autre, c'est ce qui me dépasse. Ce n'est pas ce que j'ai connu de lui. Ce que j'ai connu de lui, c'est moi. Un jugement d'existence, ceci est. Puis, le choix de l'ami. Puis, la question, existe-t-il un autre qui soit totalement autre? Être premier. Dieu. Les trois moments qui sont très importants à saisir, parce que si le premier n'existe pas, le second ne peut plus exister, et le troisième a fortiori. Alors, je peux l'affirmer en tant que croyant, mais je ne peux plus le saisir dans mon intelligence. Il m'échappe. C'est le Dieu totalement caché. C'est le Dieu que j'ignore. Et je l'affirme dans ma foi. Oui, c'est juste l'inverse de l'encyclique du pape. Point de vue de la foi et la ratio, la raison. Et ça, c'est très important pour nous de dire ça. La troisième dimension de la personne, c'est découvrir la finalité. Ma finalité. Découvrir l'ami comme l'autre par excellence. C'est l'autre par excellence, l'ami. Et plus il est mon ami, plus mon intelligence le respecte comme autre. Et c'est là où toute l'éducation, l'auto-éducation de l'amour d'amitié doit se faire. La plupart du temps, ut in pluribus, comme dirait Thomas d'Aquin à la suite d'Aristote, la plupart du temps, dans le développement de l'amour d'amitié, dans la croissance de l'amour d'amitié, la passion se développe plus vite que l'intelligence. La passion, elle est toujours jeune, alors elle court. Mais quand on vieillit, on doit laisser passer devant ceux qui courent. Les jeunes, on leur dit en passant, attention, ne vous cassez pas la tête. Et on les voit. Et c'est très, très curieux de voir combien la passion est instinctive et rapide. Alors, qu'est-ce qui se fait dans la croissance de l'amour d'amitié? C'est que la passion va plus vite. Et par le fait même, fait ombrage à l'autre. Sa transcendance, à l'autre dans ce qu'il a de dépassement par rapport à moi-même. Parce que au niveau passionnel, c'est le bien sensible qui m'attire, c'est le bien sensible que j'accapare. Et tant que je ne l'ai pas accaparé, mon désir, et le désir passionnel est tyrannique. Mon désir me pousse à le posséder. C'est jamais à combien un amour d'amitié qui au point de départ peut être très spirituel, au bout d'un certain temps, la passion l'emporte. Et la passion l'emportant, on ne respecte plus l'autre comme autre. Et on est dans une avidité tyrannique. Parce que c'est une avidité tyrannique. Tu n'as pas le droit de m'échapper. Je dois tout savoir. C'est tyrannique. Et on pose des questions tout le temps. Et ça, c'est le signe de la passion. Parce que c'est... Il faut être éveillé à ça. Hein. Parce que l'amour d'amitié implique une auto-éducation. Personne ne vous éduquera sur l'amitié que vous avez à l'égard d'un autre. Personne. Et automatiquement, ah, c'est mon ami. Touchez pas. C'est l'intouchable. Tant qu'il est l'intouchable, pour vous, ça va. Mais la passion n'aime pas les intouchables. La passion veut dévorer. Et la passion veut que tout y passe dans cette assimilation passionnelle. C'est là la tyrannie. La tyrannie est toujours passionnelle. Et l'homme vivant, dans sa jeunesse, est très facilement tyrannique, sous prétexte d'amitié. C'est bien voilé, c'est bien caché, parce qu'on n'aime pas d'avouer la passion. On le dit de temps en temps, j'aime passionnément quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime que passionnément. Ça veut dire que je l'aime passionnément, je le sens profondément, mais je le dépasse. C'est pour ça que j'en parle. Parce que celui qui s'engouffre dans la passion ne parle plus. La passion domine, accapare, et on est entièrement pris par ça. Alors c'est le silence de la passion, qui n'est pas du tout le silence du secret, qui est un silence qui vient de moi, parce que ça prend tout, ça accapare tout mon être qui désire dominer. Vous voyez, c'est très important pour nous, en saisissant ce troisième moment de la personne humaine, de voir la difficulté qu'il y a pour nous, pour chacun d'entre nous, selon des modalités différentes. Parce que les passions, c'est toujours très individuel. C'est très individuel et c'est toujours nouveau. Un Africain a des passions différentes qu'un Européen fatigué. Un Américain a des passions différentes d'un Européen. Alors là, je ne précise pas. C'est très important de saisir ça, que les passions sont diverses. Et c'est le grand obstacle à la formation de la personne. Tant qu'on n'a pas cette auto-éducation sur soi à propos de l'amour d'amitié, tant qu'on ne voit pas ce que c'est le respect de l'autre. Le respect de l'autre parce qu'il me dépasse. Et donc, quand je l'aime, je veux l'aimer vraiment comme l'ami, l'autre. C'est un autre moi-même. Mais ce n'est pas moi-même qui prend l'autre. Et qui fait que je ne vois plus que ça. Dans la passion, je ne vois jamais l'autre. Mais je me vois très bien accaparant l'autre pour qu'il soit mon prolongement. main de ma main, le pied de mon pied, l'intelligence de mon intelligence, il soit uniquement celui qui me prolonge. L'ami n'est pas celui qui me prolonge, il est celui en qui je me repose parce que je trouve en lui ma fin, celui qui me donne le sens de ma vie. En premier lieu, pas d'une façon ultime, mais en premier lieu. Ah, comme c'est en premier lieu, il y aura toujours quelque chose de très unique. Il gardera toujours quelque chose de très unique, selon l'ordre génétique. L'ami restera toujours celui qui me permet de découvrir ce pourquoi je suis, j'existe. Celui qui me dépasse, celui qui me permet d'aller plus loin. C'est cela qui me fait comprendre comment l'amour d'amitié ajoute quelque chose à la recherche de la vérité. La recherche de la vérité me met dans la solitude. Tôt ou tard, mais celui qui cherche la vérité comprendra qu'il est seul. Il est seul à cette recherche de la vérité. Et que cette recherche de la vérité, d'une certaine manière, au plan philosophique, n'a pas de terme. Son terme sera la contemplation de Dieu. Ce sera la sagesse. La science, comme telle, n'a pas de terme. Elle peut toujours aller plus loin. Elle sera limitée par les instruments, mais on pourra toujours trouver quelque chose de plus parfait qui permettra d'aller plus loin. Elle n'a pas de terme. La sagesse atteint un terme. Mais avant d'atteindre la sagesse, la recherche de la vérité est un élément essentiel qui structure ma personne. L'amour d'amitié, c'est la découverte de l'ami, la découverte concrète. Rien n'est plus concret, n'est plus individuel que l'ami. C'est mon intelligence, c'est mon cœur, c'est mes passions, c'est toute ma sensibilité qui se repose dans l'ami. Et qui trouve dans l'ami le premier moment d'arrêt. Ça, ça me semble extrêmement net. Il y a là quelque chose de très grand et de très beau. Quand je dis que cette découverte de l'ami est autre que la soif de la vérité, que la recherche de la vérité. Il faut cependant remarquer que cet amour d'amitié peut très bien aider la recherche de la vérité. Il faut d'abord voir la distinction, c'est tout à fait autre. La recherche de la vérité est immanente. L'amour d'amitié me fait découvrir tout de suite le transcendant, un transcendant. que la volonté est faite en premier lieu pour aimer, et que l'amour, dans l'amour d'amitié, implique un don et non pas un accaparement, un don. Je me donne à celui qui m'attire, à celui qui est pour moi ma fin. Je me donne à lui et je découvre que la volonté est premièrement une capacité de don et non pas d'efficacité, contrairement à ce que dit Descartes. La volonté n'est pas premièrement une capacité d'efficacité, elle est premièrement une capacité d'aimer et de se donner, et de se donner personnellement, donc dans un désintéressement et dans une totale liberté. Tandis que la passion est despotique, elle supprime la liberté. Quand quelqu'un vous dit « Ah, je ne peux pas me passer de quelqu'un », on dit « Attention, attention, ça devient tyrannique. » Et la recherche de l'amitié, la recherche de la vérité n'est plus assez forte. Au fond, il y a un équilibre constant entre les deux. Pour être une vraie personne humaine, la recherche de la vérité augmente mon autonomie et la découverte de l'ami me met relatif à l'ami. Je suis donné à lui et je suis totalement donné à lui. Donc je suis relatif à lui. Oui, c'est très merveilleux de voir cet équilibre entre les deux et de voir cette harmonie qui doit exister entre les deux. D'un côté, c'est l'autonomie, c'est vrai. La recherche de la vérité me rend très autonome. Et s'il n'y avait que cela, je m'enfermerais dans mon autonomie, en me disant que tous les autres qui ne cherchent pas la vérité sont des imbéciles. Ils n'ont rien à me dire. Ils ne cherchent pas la vérité. Et on décèle tout de suite. Ils sont dans l'erreur. Donc on passe. Pas d'intérêt. L'amour d'amitié me donne un sens tout à fait différent de l'autre. Dans chaque homme, dans chaque personne humaine, il y a quelque chose d'inédit, d'unique. Il y a quelque chose que personne d'autre ne possède. On n'est pas le fruit d'un travail en série. On est le fruit d'un travail unique. La gestation maternelle et l'éveil de mon intelligence. Il y a quelque chose d'unique. Et dans l'amour d'amitié, je découvre ce quelque chose d'unique. Et je comprends à ce moment-là que m'isoler dans la recherche unique de la vérité, ce n'est pas juste. Ce n'est pas vrai. J'ai besoin d'un autre. Alors, ce n'est pas l'axiome. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ça, c'est pas tout à fait juste. C'est de l'ordre utilitaire. Mais ce n'est pas de l'ordre de la personne et du développement de la personne. On a toujours besoin d'un autre pour s'agrandir, se dépasser. Et dans l'amour vis-à-vis d'un autre, on se dépasse toujours. Parce que l'amour est extatique. L'amour spirituel est extatique. L'amour charnel est captatif et l'amour spirituel est extatique. Je sors de moi pour rencontrer l'autre et je suis vers lui. Et en étant vers lui, je me dépasse. Alors je découvre dans l'amour d'amitié, par la découverte de l'autre et de l'ami, je découvre celui qui est l'autre et qui exige de moi cet effort perpétuel d'extase, consciente, aimante. Et je découvre alors que je ne suis vraiment moi-même qu'en aimant l'autre, que dans cette sortie de moi, dans cette extase d'amour, dans ce don, je ne suis vraiment moi-même que là. Cette recherche de la vérité est très importante, mais elle est limitée à moi. Il faut que je sorte de moi-même pour être plus moi-même. L'homme et la personne humaine est comme ça. Elle ne peut être parfaitement elle-même qu'en se dépassant. Parce que en découvrant l'autre, je me découvre moi-même comme relative à lui, dans l'amour, comme m'agrandissant. Puisque l'amour d'amitié corrélation, implique que c'est ensemble. C'est un amour qui est deux. Et tout ce qui est vrai pour moi dans le dépassement est vrai pour l'autre dans le dépassement. Et c'est en reconnaissant la transcendance de l'autre que je permets à l'ami de découvrir en moi sa transcendance. Et ça, c'est très étonnant, ça. Et c'est très grand. Et c'est le secret de l'amour d'amitié, ça. Dans ce qu'il a de vrai, de plus profond. Puisque, dans tout amour d'amitié, il y a ces deux amours qui se rencontrent. Il y a cette correspondance de l'ami à l'égard de moi-même et moi-même à l'égard de lui. On s'aime tous les deux. Et plus on s'aime vraiment, plus on grandit et on permet à l'autre d'aimer vraiment. Il y a cette coopération étonnante d'agrandissement mutuel, alors que dans l'amour passionnel on dégringole progressivement ensemble. C'est ça qui est assez terrible. On n'a pas le droit de céder à la passion. Il ne faut pas être dans une attitude telle qu'on ne supporte rien de passionnel de l'autre. On doit accepter l'amour passionnel de l'autre. Mais il ne faut jamais qu'il déborde. Il ne faut jamais qu'il étouffe l'amour spirituel. Il faut qu'il soit présent et qu'il soit ordonné vers. Et c'est toujours ça qui fait la si grande difficulté de l'auto-éducation dans l'amour d'amitié. Et en même temps, on découvre sa grandeur. Alors, par l'amour d'amitié, je comprends que même ma recherche de la vérité doit prendre toute sa vérité humaine dans cette collaboration, dans cette coopération avec l'ami. Il faut que mon amour de la vérité soit partagé avec l'ami. Avec l'ami capable de comprendre cela. Et il participe alors à cette recherche de la vérité. Et qui fait qu'à ce moment-là, cette recherche de la vérité se complète dans une recherche à deux. Et alors, elle connaît une intensité, une force, une efficacité beaucoup plus grande. Vous voyez ? Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on comprend le mieux comment intelligence et volonté. Il ne faut surtout pas les comprendre dialectiquement, en opposition. Il faut au contraire les comprendre dans leur diversité, leur exigence propre, mais comprendre aussi qu'il y a une possibilité de coopération. Et à ce moment, la recherche de la vérité prend une force nouvelle grâce à l'autre, prend une sorte de d'ampleur, de profondeur nouvelle grâce à l'autre. Mais c'est le travail en commun dans l'amour d'amitié. Travailler à côté de l'autre sans amour d'amitié, c'est usant. Parce que très vite, la rivalité vient. On louche. Je vois que l'autre va plus vite que moi. Et c'est comme sur la route, quand on est pressé et que quelqu'un s'aperçoit qu'on le dépasse à l'auto. Il est furieux, il veut le rattraper. C'est pas une sainte émulation. Et quand on travaille ensemble, sans amitié, très vite, il y a cette espèce d'émulation qui n'est pas une sainte émulation, qui est une rivalité, une compétition, une rivalité constante. Et c'est ça. L'unité de la recherche de la vérité et l'amour d'amitié. L'intelligence devient rivale de l'amour et l'amour devient rival de l'intelligence. Ça, c'est terrible. C'est ça qui tue la personnalité. Parce que ça touche en nous les deux grandes forces. Ensemble. On nous l'a demandé. On l'a pas choisi. Alors, à ce moment-là, dans l'amitié, dans le respect mutuel de l'un par rapport à l'autre, on découvre très vite que l'autre a telle qualité qui lui permet de me dépasser dans telle recherche et que j'ai des qualités qui permettent, moi, de le dépasser dans telle autre recherche. Et c'est la complémentarité. La complémentarité vient de ce fait que le rythme de la recherche de la vérité n'est pas le même chez mon ami et chez moi. C'est toujours par cette recherche de la vérité que l'amour d'amitié va pouvoir se compléter dans cette complémentarité qui est autre chose que l'amour d'amitié, mais qui permet à l'amour d'amitié de connaître un nouveau terrain. Au début, il n'était pas prévu. Par où l'amour d'amitié?